Chapitre 11. Corps et âme. La lumière de l'aube miroitait avec trop d'éclat sur l'eau. L'étoffe bourrue de ses culottes irritait sa peau à vif. Yéma ne pouvait supporter le contact d'une chemise. Il était capable de se tenir debout et de marcher sans aide à présent, mais il était étourdi au moindre effort. Le simple fait de rejoindre clopin-clopant le gaillard d'avant lui fit battre le cœur. Durant son lent trajet, les hommes d'équipage marquaient le pas pour le regarder, puis avec une fausse jovialité le félicitaient de son rétablissement. Couturé de cicatrices à faire frémir même un pirate, se dit-il ironiquement. Les bons souhaits des matelots étaient sincères, il faisait vraiment partie de l'équipage désormais. Il gravit la courte échelle qui menait au gaillard d'avant, deux pieds à chaque degré. Il redoutait de se retrouver face à la figure de proue grise et sans vie, mais quand il atteignit la lisse et aperçut ses couleurs toutes neuves, son cœur bondit.
« Vivacia !»
s'écria-t-il joyeusement. Elle se tourna lentement vers lui. Sa crinière noire balaya ses épaules nues. Elle lui sourit. L'or tourbillonnant des yeux d'un dragon luit au-dessus des lèvres rouges. Il la dévisagea, horrifié. C'était comme de voir les traits d'un visage chéri animé par un démon.
« Que lui as-tu fait ? »
demanda-t-il.
« Où est-elle ? »
Sa voix se brisa. Il se cramponna à la lisse comme s'il avait pu arracher la vérité au dragon.
« Où es-qui ? »
répondit froidement la figure de proue. Puis elle cligna lentement les yeux. Ils passèrent de l'or au vert, puis à nouveau à l'or. Avait-il l'espace d'un instant entrevu Vivacia dans ses prunelles? La couleur chavira insensiblement de façon narquoise, les lèvres écarlates s'incurvèrent dans un sourire sarcastique. Il respira et se força au calme.
« Vivacia ! »
répéta-t-il avec obstination.
« Où est-elle ? Tu l'as emprisonnée à l'intérieur de toi ou tu l'as détruite ?»«
Ah, Yéma, petit sot, pauvre petit sot !» Elle soupira l'air de le plaindre, puis détourna le regard vers la mer. « Elle n'a jamais été. Tu ne comprends pas ? Elle n'était qu'une coquille, une confusion de souvenirs que tes ancêtres ont cherché à m'imposer. » Elle n'était pas réelle. Il en résulte qu'elle n'est nulle part, ni emprisonnée en moi, ni détruite. Elle est un rêve que j'ai fait. Une partie de moi-même, je suppose, au sens où les rêves font partie du rêveur. Vivacia a disparu. Tout ce qui était à elle est à moi désormais, y compris toi. Sa voix se durcit sur les derniers mots. Puis elle sourit à nouveau et ajouta sur un ton plus chaleureux,
« Mais laissons là ce bavardage futile. Dis-moi, comment te sens-tu aujourd'hui ? Tu as l'air d'aller beaucoup mieux, encore que pour avoir plus mauvaise mine, il aurait fallu que tu sois mort. »
Yéma n'en disconvint pas. Il s'était vu dans le miroir de barbier de Kénith. Il ne restait plus trace du novice au teint frais qui avait voulu se faire prêtre. L'œuvre que son père avait amorcée avec l'amputation du doigt et le tatouage de la figure... Il l'avait bien parachevé. Son visage, ses mains, ses bras étaient criblés de taches rouges, rosâtres et blanches. Il guérirait partiellement. Le hâle lui donnerait une apparence presque normale, mais sur la main, sur la joue et à la naissance des cheveux, la peau tendue et luisante garderait probablement son aspect livide. Il refusa de se laisser affecter par cette idée. Ce n'était pas le moment de s'inquiéter de soi. Elle se détourna pour regarder droit devant elle vers les îles de la barrière de récifs. On n'allait pas tarder à atteindre les hauts fonds rocheux et les écueils épars dont le chenal traître entre l'île du mur protecteur et l'île dernière.
« Ah, mais je pourrais te montrer comment faire disparaître ces cicatrices. Le savoir est là, enfoui au fond de ta tête, recouvert, caché. » Pauvre petit qui n'a que la mémoire de 15 brefs étés, tends-toi vers moi. Je t'apprendrai à te guérir toi-même.
Non. Elle rit.
Ah, je vois. C'est ta façon de déclarer ta fidélité à Vivacia? En refusant d'entrer en contact avec moi? Piètre hommage, mais sans doute le meilleur que tu puisses lui rendre. Je pourrais te forcer, tu sais, je te connais mieux que personne. Un bref instant, il la sentit s'insinuer et s'enrouler autour de son esprit. Elle ne se tendait pas vers lui, mais bien plutôt elle lui faisait sentir sa présence. Puis elle laissa la conscience qu'elle avait de lui se remettre en sommeil. « Mais si tu préfères rester défigurée... » Elle ne se donna pas la peine de terminer sa phrase. Le désir le dévorait. Il se rappelait l'intense satisfaction qu'il avait éprouvée à guider consciemment la réparation de son corps pendant qu'il dormait dans le dragon. Éveillé, revenu à la vie, il n'avait pas les moyens de plonger assez profond pour atteindre à cette maîtrise de lui-même. Le dragon pouvait-il lui apprendre à s'en assurer à volonté? Sa soif de connaissance allait bien au-delà du désir de se délivrer de la souffrance et d'effacer ses cicatrices. Le dragon pouvait-il lui montrer comment éliminer de son visage l'encre du tatouage? Lui enseigner à régénérer son doigt perdu? Une fois qu'il saurait, serait-il en mesure d'employer ce savoir-faire au bénéfice d'autrui? Ce serait la révélation d'un grand mystère. Yéma avait toute sa vie aimé la connaissance, la recherche de la connaissance. Le dragon n'aurait su choisir de meilleur appât pour le tenter. « Quel guérisseur tu ferais ? » Réfléchis. « Je pourrais persuader Kenith de te laisser partir. Tu retournerais à ton monastère, au service simple et satisfaisant de ça. Tu retrouverais ta vie. Tu servirais ton Dieu, la conscience pure. Vivacia partie. Tu n'as plus vraiment de raison de rester ici. » Il l'avait presque ferré. À ces mots, Yémin s'était senti transporté, mais la dernière phrase le ramena brutalement à la réalité. Vivacia partit. Partit où? Tu veux que je m'en aille? Pourquoi? Demanda-t-il à mi-voix. Un regard flamboyant, doré, tourbillonnant. « Pourquoi poses-tu la question ?» rétorqua la figure de proue d'un ton acerbe. « N'est-ce pas ton rêve depuis qu'on t'a forcé à embarquer sur ce navire ? N'as-tu pas sans cesse jeté à la tête de Vivacia ? Sans toi, mon père ne m'aurait pas retiré du monastère ? Pourquoi ne pas partir tout simplement en prenant ce que tu veux ?» Il réfléchit un moment. « Peut-être que ce que je veux vraiment n'implique pas que je m'en aille. » Il la dévisagea avec attention. « Je crois que tu rends les choses trop séduisantes pour moi. Alors je me pose la question. Que gagnerais-tu à mon départ ? » ?»« Je ne vois qu'une seule réponse. Mon absence affaiblirait d'une façon ou d'une autre Vivacia à l'intérieur de toi. Peut-être que si je n'étais plus là, elle capitulerait et se tiendrait tranquille en toi. Ça m'en soit témoin. » Une voix en moi crie vers elle. Je lui manque peut-être beaucoup aussi. Moi vivant, tant que je suis ici, une partie de Vivacia vit aussi. Crains-tu que ma présence ne la rappelle? Tu t'es bien démené pour prendre le dessus. Elle t'a presque traîné à la mort. Tu l'as remportée de justesse. La certitude grandit en lui. Tu as dit toi-même une fois que nous étions entremêlés tous les trois. La mort de l'un de nous menacerait les deux autres. Vivacia vit toujours en toi, et tout ce qui vit procède de ça. Mon devoir envers mon Dieu est ici, comme mon devoir envers Vivacia. Je ne renoncerai pas à elle si facilement. Si être guéri par toi signifie abandonner Vivacia, alors je refuse d'être guéri. Je resterai avec mes cicatrices. Je te dis cela à toi, et je sais qu'elle l'entend aussi. Je ne renoncerai pas à elle, pour rien au monde. « Imbécile !» La figure de proue affecta la désinvolture en se grattant la nuque. « Te voilà bien théâtral, c'est vraiment émouvant. À supposer qu'il y ait quelque chose à émouvoir, c'est-à-dire... Garde tes cicatrices, alors, comme pitoyage hommage à un être qui n'a jamais existé. Quelles soient les ultimes traces de son existence. Est-ce que je désire que tu partes ?» Oui, et la raison en est que je préfère Kenith. Il correspond mieux à mes aspirations. Je désire qu'il soit mon partenaire.
Ah, vraiment?
La voix d'Eta était froide et grave.
Yémin sursauta, mais la figure de proue parut seulement amusée.
Comme toi, certainement,
murmura la vive nef. Elle laissa son regard se promener sur Eta. Un sourire approbateur retroussa ses lèvres. Elle détourna son attention de Yémin pour la fixer sur Eta.
Approche, ma chère. Cette soie vient-elle de Verania? Il te gâte, dis-moi. Ou peut-être se gâte-t-il lui-même en étalant ses trésors aux yeux de tous? Cette couleur te fait chatoyer comme une pierre précieuse sur une monture exotique.
Eta leva la main, presque timidement, pour caresser la soie bleue intense de sa chemise. Une expression fugace d'incertitude passa sur son visage.
Je ne sais pas où le tissu a été fabriqué, mais il me vient de Kenith.
Je suis quasiment certaine qu'il s'agit d'une soie de Verania. La plus belle qui soit, mais évidemment, il ne t'offrirait rien de moins. Quand j'habitais mon propre corps, je n'avais pas besoin de tissu, bien sûr. Ma peau douce scintillait, brillait plus somptueusement que ce qui sort de la main de l'homme. Pourtant, je m'y connais en soi. Il n'y a qu'à Verania qu'on peut obtenir cette teinte bleu dragon.
Elle pencha la tête vers Eta.
Elle te va bien. Les couleurs vives t'avantagent le teint. Kenith a raison de te couvrir d'argent plutôt que d'or. L'argent étincelle sur toi tandis que l'or ne prendrait qu'un ton chaud.
Eta effleura les bracelets à son poignet. L'incarnat de ses joues devint plus vif. Elle hasarda un pas ou deux vers la lisse. Elle croisa les yeux de la figure de proue, et l'espace d'un instant, toutes deux parurent ravies en extase. Yémin se sentait exclu. À sa grande surprise, il sentit un frisson de jalousie le parcourir. Il ne savait pas si c'était Vivacia qu'il ne voulait pas partager avec Eta, ou si c'était Eta qu'il voulait préserver du dragon.
Elle secoua légèrement la tête comme pour briser le charme et le mouvement fit danser ses cheveux noirs et lustrés. Elle regarda Yémin et plissa un peu le front.
« Tu ne devrais pas t'exposer au soleil et au vent, ça te fait peler. Tu devrais rester dans ta cabine au moins encore une journée. »
Yémin la dévisagea attentivement.
Il y avait quelque chose qui clochait.
Elle ne lui montrait pas d'ordinaire une telle sollicitude. Et il se serait plutôt attendu qu'elle l'exhorte à s'endurcir.
Il tâcha de déchiffrer son expression, mais elle ne le regardait plus.
Le dragon fut plus brutal.
« Elle voudrait me parler en particulier, laisse-nous, Yémin. »
Il ne releva pas et s'adressa à Eta.
« Si j'étais vous, je ne me fierais pas trop à ce qu'il raconte. Nous n'avons pas encore appris la vérité à propos de Vivacia. » Les légendes abondent en exemples sur les dangers qu'il y a à bavarder avec les dragons. Il va vous dire ce que vous voulez. »
Soudain, la présence, là, à nouveau, en lui. Cette fois, il la ressentit comme une gêne physique. Son cœur manqua un battement puis bondit. La sueur perla à son front. Il ne put respirer à fond.
« Pauvre petit !» fit le dragon compatissant. « Regarde comme il vacille, Eta. Il n'est pas du tout lui-même aujourd'hui. Va-t'en, Yémin, répéta-t-il. Va te reposer, va.
Faites attention, parvint-il à dire à Eta. Ne le laissez pas.
Il fut pris de vertige. La nausée monta en lui. Il n'osa plus parler de crainte de vomir. Il avait peur de s'évanouir. La lumière du jour le blessa de son éclat. Il se protégea les yeux de son bras et gagna l'échelle en titubant.
L'obscurité. Il lui fallait l'obscurité, le silence et l'immobilité. Ce besoin anéantit tout le reste.
Ce n'est qu'une fois allongé sur sa couchette que les symptômes disparurent, remplacés par l'effroi.
Le dragon pouvait lui infliger cela à tout moment. Il pouvait le guérir ou le tuer. Comment aider Vivacia alors que le dragon avait autant d'empire sur lui?
Il chercha du réconfort dans la prière, mais une terrible lassitude le terrassa, et il sombra dans un profond sommeil.
Etta secoua la tête en le suivant des yeux.
« Regarde-le. Il peut à peine marcher droit. Je lui ai dit qu'il devait se reposer, et hier soir il a beaucoup trop bu. »
Elle détourna le regard pour croiser celui de la figure de proue. Les yeux tourbillonnaient comme de l'or en fusion, magnifiques et envoûtants.
« Qui es-tu ? »
Elle parlait avec une hardiesse qu'elle ne ressentait pas.
« Tu n'es pas Vivacia. Elle n'a jamais eu un mot poli pour moi. Elle ne désirait qu'une chose, m'écarter pour avoir Kenit à elle toute seule. »
Le sourire s'élargit sur les voluptueuses lèvres rouges de la vive nef.
« Enfin, j'aurais dû savoir que la première personne raisonnable à qui je m'adresserais serait quelqu'un de mon sexe d'autrefois.
Non, je ne suis pas Vivacia, et je ne désire pas t'écarter ni te prendre Kenit. Pense à ce qu'il est, Kenit. La rivalité n'a pas lieu d'être entre nous. Il a besoin de nous deux. On ne sera pas trop de deux pour satisfaire ses ambitions. Toi et moi, nous allons devenir plus proches que des sœurs.
Bon, laisse-moi réfléchir au nom que tu pourrais me donner. »
Le dragon plissa ses yeux dorés, puis son sourire s'élargit encore.
« Foudre ! Foudre ! Ça irait ! »
« Foudre ? »
L'un de mes noms dans une langue ancienne aurait pu être conçu pendant un orage au moment du coup de foudre. Mais vous êtes des êtres éphémères, portés à abréger, dans l'espoir de les comprendre, tous les événements de la vie. Tu trébucherais sur tous ces mots, alors tu peux m'appeler Foudre.
Tu n'as pas un vrai nom ?
Hasarda Etta.
Foudre rejeta la tête en arrière et rit de bon cœur.
Comme si j'allais te le dire. Allez, femme, pour fasciner Kenit, tu dois sûrement avoir plus d'astuces que ça.
Pour me tirer mes secrets, il faudra trouver mieux que me questionner en prenant l'air innocent. »
Une expression amusée passa brièvement sur les traits sculptés. Alors elle s'écria
« Timonier ! Deux quarts à tribord, le chenal est plus profond et le courant plus porteur, vire par là !»
Iola était à la barre. Sans poser de questions, il vira de bord. Etta fronça les sourcils.
Qu'en penserait Kenit ?
Il n'y avait pas si longtemps, il avait commandé aux hommes de quart de tenir compte des ordres de la vive nef comme des siens.
Mais c'était avant le changement.
Alors que le navire modifiait son cap, Etta sentit qu'il filait plus vite et sans à-coup. Elle leva le visage dans le vent qui caressait ses joues et ses yeux embrassèrent l'horizon. Kenit avait dit qu'on faisait route vers Partage, ce qui ne l'empêcherait pas de faire une prise en chemin. Yéma se rétablissait. Il n'était plus besoin de se presser pour trouver un guérisseur qui ne pourrait probablement plus grand-chose pour lui. Il garderait ses cicatrices jusqu'à la fin de sa vie.
« Tu as des yeux de chasseresse !» fit remarquer Foudre sur un ton approbateur.
Elle tourna sa grande tête pour parcourir l'horizon d'un bout à l'autre.
« On chassera bien ensemble, nous deux !»
Un frisson singulier parcourut l'échine d'Etta.
« Tu ne devrais pas plutôt dire ça à Kenit ?»«
Un mâle !»
demanda Foudre dans un rire légèrement dédaigneux.
« On les connaît, les mâles. Un mâlard chasse pour se remplir le ventre. Quand une reine s'envole et cherche une proie, c'est pour préserver la race. » Nous savons, nous, dans nos entrailles, que le but de tous nos mouvements, c'est la perpétuation de l'espèce. »
Etta porta les mains à son ventre plat. Elle pouvait sentir même à travers le tissu la petite bosse du charme en forme de crâne sur son nombril. Comme la figure de proue, il était sculpté en bois sorcier. Il était fait pour l'empêcher de concevoir. Elle le portait depuis des années. Depuis qu'elle était devenue putain, toute jeune fille encore. Avec le temps, il aurait dû faire partie d'elle. Pourtant, dernièrement, il s'était mis à la démanger, à l'irriter, physiquement et mentalement. Depuis qu'elle avait trouvé la petite figurine d'un bébé sur la plage au trésor, qu'elle avait emportée à son insu, elle avait commencé à écouter son corps qui réclamait un enfant.
« Enlève-le !»
suggéra Foudre. Etta s'immobilisa complètement.
« Comment sais-tu cela ? »
demanda-t-elle d'une voix dangereusement basse.
Foudre ne lui accorda même pas un coup d'œil, mais continua à contempler la mer.
« Ah, je t'en prie, j'ai un nez. Je le sens sur toi, enlève-le. Il ne rend pas honneur à celui dont il faisait autrefois partie, et toi, tu ne lui rends pas honneur en l'employant à cet usage. »
À l'idée que le charme avait jadis fait partie d'un dragon, Etta en eut la chair de poule. Elle avait très envie de le retirer.
« Je dois d'abord en parler à Kenith. Il me dira quand il sera prêt à avoir un enfant. »«
Jamais !»
déclara tout net Foudre.
« Quoi ?»«
N'attends jamais d'un mâle qu'il prenne ce genre de décision. C'est toi la reine. C'est toi qui décides. Les mâles ne sont pas aptes à prendre ce genre de décision. Je l'ai constaté maintes fois. » Ils te font attendre le beau temps, la fortune, l'abondance. Pour un mâle, il n'y a pas assez s'il n'y a trop, et trop n'est pas assez. Une reine sait que, quand les temps sont durs et que le gibier se fait rare, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut se soucier le plus de la perpétuation de la race. Il y a des choses qu'il n'appartient pas à un mâle de décider.
Elle leva la main, se lissa les cheveux en arrière et adressa à Etta un grand sourire confiant qui était soudain très humain.
« Je ne suis pas encore habituée à avoir des cheveux. Cela me fascine. »
Etta se surprit à sourire à son tour, malgré elle. Elle se pencha sur la lisse. Voilà longtemps qu'elle n'avait pas parlé avec une femme, et plus longtemps encore avec une femme qui s'exprimait aussi librement qu'une putain.
« Kenith n'est pas comme les autres, »
risqua-t-elle.
« Nous le savons toutes les deux. Tu as choisi un bon compagnon.
Mais à quoi bon si ça s'arrête là ?
Enlève-le, Etta. N'attends pas qu'il te le demande. Regarde autour de toi. » Est-ce qu'il dit à ses hommes quand il est temps qu'ils se mettent au travail? Bien sûr que non, sans quoi il aurait aussi vite fait de s'y mettre lui-même. Ce qu'il attend des autres, c'est qu'ils pensent par eux-mêmes. Je risque un pari. Ne t'a-t-il pas déjà laissé entendre qu'il avait envie d'avoir un héritier?
Etta songea aux paroles qu'il avait prononcées quand elle lui avait montré le bébé sculpté.
« En effet, »
admit-elle doucement.
« Alors tu vois,
tu vas attendre qu'il t'en donne ordre.
Quelle honte !
La femelle ne devrait jamais attendre l'ordre d'un mâle pour ce qui concerne ses affaires.
C'est toi qui devrais lui dire ce genre de choses. Enlève-le, reine. »
Reine. Etta savait que le dragon, par ce terme, voulait seulement dire « femelle ».
Les dragons femelles étaient des reines, comme les chattes. Pourtant, quand Foudre prononça le mot, Etta sentit émerger une idée qu'elle osait à peine envisager.
Si Kenith devait devenir le roi des îles des pirates, que serait-elle, elle ?
Peut-être seulement sa compagne ?
Mais si elle avait son enfant, alors...
Tout en se reprochant de nourrir de telles ambitions, elle glissa la main sous la soie de sa chemise pour toucher la chair tiède de son ventre.
Le petit charme de bois sorcier en forme de crâne était attaché à un mince fil d'argent muni d'un crochet et d'une boucle. Elle appuya les doigts et la chaîne s'ouvrit. Elle dégagea délicatement le charme de son crochet et le tint dans sa main. Le crâne lui souriait. Elle frissonna.
« Donne-le-moi !»
dit Foudre à mi-voix. Etta s'interdit de réfléchir. Elle tendit la main et quand Foudre tendit la sienne,
Elle lâcha l'amulette au creux de la large paume. Durant un instant, l'objet reposa là. La chaîne d'argent étincelait au soleil. Puis, comme un enfant qui avale un bonbon, la figure de proue porta sa main fermée à la bouche. En riant, elle montra à Etta sa paume vide.
« Parti !»
dit-elle. Et de ce moment, la décision était irrévocable.
« Qu'est-ce que je vais dire à Kenneth ?»
se demanda-t-elle à voix haute.
« Rien du tout !»
répondit la vive nef sur un ton désinvolte.
« Rien du tout !»
Le nœud avait grossi jusqu'à devenir le plus grand groupe de serpents que Shriver eût jamais vu, jurant fidélité et obéissance à un seul chef. Parfois, ils se séparaient pour se nourrir, mais le soir les trouvait à nouveau réunis. De toutes couleurs, tailles et conditions, ils venaient à Molkin ne se rappelant pas tous l'usage de la parole. D'aucuns étaient même complètement sauvages. D'autres portaient les cicatrices de leurs mésaventures ou des blessures suppurantes récoltées lors d'affrontements avec des navires hostiles. Certains, parmi les sauvages, effrayaient Shriver avec leur capacité à outrepasser les limites d'une conduite civilisée. Quelques-uns, comme le fantomatique serpent blanc, lui faisaient mal à cause de l'angoisse latente qui fermentait en eux. Le blanc en particulier paraissait figé dans une colère muette. Néanmoins, tous, sans exception, suivaient Molkin. Quand ils se regroupaient la nuit, ils s'ancraient dans un champ de serpents ondulants qui évoquait à Shriver un banc de Varek. Leur nombre paraissait affermir leur confiance dans l'autorité de Molkin. Celui-ci était comme rayonnant maintenant, ses ocelles dorées luisaient sur tout son corps. Par leur nombre aussi, ils pourvoyaient aux besoins de chacun. Ils se réconfortaient mutuellement en partageant leurs souvenirs, et souvent un mot, un nom réveillait des réminiscences. Pourtant, malgré leur pullulement, ils n'étaient toujours pas prêts de découvrir le vrai chemin de la migration. Les souvenirs partagés ne faisaient que rendre leur errance plus décevante encore. Ce soir, Shriver ne trouvait pas le repos. Elle se détacha de ses semblables endormis, se laissa flotter librement en considérant la forêt vivante de serpents. Cet endroit avait quelque chose de familier qui la mettait à la torture, quelque chose qui était à la frange de sa mémoire. Était-elle déjà venue ici? Cessurea, qui de par leur long compagnonnage était sensible à ses humeurs, monta la rejoindre en ondulant. Silencieusement, il s'associa à sa contemplation des fonds marins. Ils ouvrirent grand leurs yeux à la pâle clarté de la lune qui filtrait à ses profondeurs. Elle étudiait la configuration du sol à la faible luminescence des serpents et de l'infime vie abyssale. Quelque chose.
« Tu as raison. »
C'étaient les premiers mots que prononçait Cessurea. Il s'écarta d'elle pour descendre doucement en sinuant vers un lit particulièrement inégal. Il tournait la tête dans tous les sens, avec lenteur. Puis, à la grande consternation de Shriver, il saisit soudain une grande fronde d'algues dans ses mâchoires et l'arracha. Il la rejeta, en prit une autre et fit de même.
« C'est Suréa ? »
trompeta-t-elle sur un ton interrogateur, mais il ne fit pas attention à elle. Il arrachait, touffe après touffe, les algues qu'il rejetait ensuite. Puis, alors qu'elle commençait à croire qu'il était devenu fou, il se fixa au fond, fouetta sauvagement de la queue, troublant la vase accumulée depuis des décennies. L'appel de Shriver, l'étrange comportement de son compagnon, avait réveillé plusieurs serpents. Ils vinrent la rejoindre dans sa contemplation. Cessurea déracina encore une touffe d'algues qu'il projeta au loin.
« Que fait-il ? »
demanda un mince serpent bleu.
« Je n'en sais rien, »
répondit-elle tristement. Cessurea interrompit ses folles contorsions aussi abruptement qu'il avait commencé.
Il monta en flèche retrouver les autres. Il se lustra en faisant une boucle sur lui-même avant d'envelopper Shriver avec agitation.
« Regarde, tu avais raison. Bon, attends un peu que la vase se redépose. Là, tu vois ?»
Pendant un moment, elle ne vit que des sédiments qui flottaient. Cesurea était hors d'haleine, les ouïes palpitantes d'émoi. Enfin, le serpent bleu qui flanquait Shriver se mit à trompeter avec véhémence.
« C'est un gardien, mais cela ne se peut pas ici, dans le plein, ce n'est pas normal !»
Perplexe, Shriver ouvrit de grands yeux. Les paroles du serpent bleu étaient hors de propos, elle ne comprenait pas leur signification. Les gardiens, c'étaient des dragons. Y avait-il des dragons morts au fond de la mer? Alors, à force de regarder, elle distingua à travers l'eau troublée de vases de vagues formes dont les contours se précisèrent soudain. Elle vit. C'était un gardien. Une femelle, manifestement. Elle était affalée sur le flanc, une aile soulevée, l'autre enfouie dans la vase. Trois griffes cassées à une patte dressée. Une portion de la queue pointait bizarrement à côté d'elle. La statue s'était brisée dans sa chute, ça, au moins, c'était clair. Mais comment se faisait-il qu'elle soit là, sous la mer? Elle surmontait autrefois les portes de la cité de Yiruran. Alors Shriver aperçut une colonne renversée. Et là-bas, il s'agissait de l'atrium que Desmolo le Fervent avait construit pour y loger toutes les plantes exotiques que ses amis dragons lui rapportaient des quatre coins de la terre. Et plus loin, le dôme écroulé du temple de l'eau.
« La cité tout entière est là ?»
trompeta-t-elle doucement. Molkin apparut soudain parmi eux.
« Une province tout entière est là !»
corrigea-t-il. Tous les yeux le suivirent alors qu'il descendait vers les vestiges du monde qui se révélaient à la lisière de leur mémoire. Il passait et repassait entre les ruines, frôlant l'un après l'autre les monuments.
« Nous nageons là où jadis nous volions. »
Alors il remonta lentement vers eux. Le nœud tout entier était réveillé à présent et observait ses douces ondulations. Et il formait une sphère vivante dont Molkin était le centre. Son corps et ses paroles s'entremêlaient.
« Nous cherchons à retourner chez nous, vers les terres où nous chassions et volions. » Je crains que nous y soyons parvenus. Avant, quand nous avons découvert une statue ou une arche, j'ai prétendu que le hasard avait fait s'écrouler un ou deux bâtiments situés sur la côte. Mais Hiruran était bien à l'intérieur des terres. Ici gisent ces ruines englouties.
Il fit une boucle lente qui niait leurs espoirs.
Le tremblement de terre a été d'une grande ampleur. Tout a changé considérablement. Nous cherchons un fleuve qui nous conduirait chez nous. Mais sans un guide venu du monde au-delà, je crains que nous ne le trouvions jamais. Aucun guide n'est venu à nous. Nous sommes allés au nord, nous sommes allés au sud, et cependant nous n'avons pas aperçu de chemin qui nous ait invité à le suivre. Tout est trop différent. Les souvenirs épars que nous avons réunis ne suffisent pas à la tâche. Nous sommes perdus. Notre seul espoir réside désormais dans celle qui se souvient. Et il se peut même que cela ne soit pas suffisant.
Conteur, un mince serpent vert, osa protester.
Nous l'avons cherché, mais en vain. Nous nous fatiguons. Jusqu'à quand, Molkin, devrons-nous errer et languir? Tu as rassemblé un nœud puissant, pourtant nous avons beau être nombreux. Ce n'est rien en comparaison de ce que nous étions autrefois. Ont-ils donc tous péri, ces autres nœuds qui devraient fourmiller aujourd'hui? Sommes-nous les seuls survivants de notre peuple? Devons-nous, nous aussi, mourir comme des égarés? Se peut-il qu'il n'y ait ni fleuve ni pays où retourner?
Il chantait son chagrin et son désespoir. Molkin ne leur mentit pas.
« Peut-être. » Il se peut que nous périssions et que notre race ne soit plus. Mais nous ne disparaîtrons pas sans lutter. Nous allons pour la dernière fois chercher celle qui se souvient, mais cette fois-ci, nous allons consacrer tous nos efforts à cette quête. Nous trouverons un guide ou nous mourrons en essayant.
Alors nous mourrons. Sa voix était froide, blanche, comme de la glace épaisse qui se craquelle. Le serpent blanc se fraya un passage jusqu'au centre du nœud pour se contorsionner de façon insultante devant Malkin. La crinière de Shriver se hérissa d'horreur. Il poussait Malkin à le tuer. Ses attitudes impudentes appelaient la mort. Tous attendirent que le jugement s'abatte sur lui. Mais Malkin se contint. Il décrivit de plus larges boucles qui encerclaient les insultes du serpent blanc, interdisant aux autres de s'en prendre à lui. Il ne dit pas un mot, bien que sa crinière dressée laissa échapper une pâle traînée de toxines dans l'eau. Le silence et les poisons enrobèrent le serpent blanc dans leur trame. Ses mouvements se ralentirent, et il flottait en suspension aussi immobile que peut l'être un serpent. Malkin ne lui avait pas posé de questions, pourtant il répondit furieux.
« Parce que j'ai parlé avec celle qui se souvient. J'étais sauvage, insensé, aussi bestial que les endormis qui vous suivent maintenant. Mais elle m'a saisi, m'a tenu serré, m'a insufflé ses souvenirs jusqu'à ce que j'étouffe. »
Il virevolta en décrivant un cercle rapide et vicieux, comme s'il voulait s'attaquer lui-même. Il allait de plus en plus vite.
« Ses souvenirs étaient du poison. » Du poison, plus toxique que ce qui s'est jamais écoulé d'une crinière. Quand je me souviens de ce que nous avons été, de ce que nous devrions être, et que je le compare à ce que nous sommes devenus, j'en ai des hauts le cœur. Je voudrais vomir cette vie infecte que nous étreignons encore. »
Malkin n'avait pas interrompu sa danse muette et flexueuse. Ses mouvements érigeaient un mur entre le serpent blanc et les autres qui l'écoutaient.
« Il est trop tard !»
Le blanc trompeta clairement chaque mot.
« Trop de saisons se sont écoulées. Le temps de la métamorphose est venu maintes fois il est passé. Les souvenirs qu'elle a sont d'une époque depuis longtemps révolue. Même si nous parvenions à trouver le fleuve et les lieux de nidification, il n'y a personne pour nous aider à fabriquer les cocons. Ils sont tous morts !»
Il se mit à parler plus vite. Les mots jaillissaient en torrents.
« Nous n'avons pas de parents qui nous attendent pour cacher leurs souvenirs dans nos anneaux. À notre éclosion, nous serions aussi ignorants qu'avant. Elle m'a donné ses souvenirs, et je vous le dis, ils ne suffisent pas. Je reconnais à peine cet endroit, et ce que je me rappelle ne correspond pas. Si nous sommes condamnés à périr, alors perdons nos voix et nos esprits avant de mourir. » Ses souvenirs à elle ne valent pas la torture que je subis. »
Sa crinière hérissée relâcha soudain un nuage de toxines paralysantes. Il y plongea la face. Malkin frappa, aussi prompt que s'il fondait sur une proie. Ses yeux dorés lancèrent des éclairs quand il enveloppa le serpent blanc et l'arracha à ses propres poisons.
« Assez !»
rugit-il. Ses paroles étaient furieuses, mais sa voix ne l'était pas. L'insensé serpent blanc se débattit, mais Malkin le pressait comme s'il était un dauphin.
« Tu es tout seul. Tu ne peux décider pour le nœud tout entier ni pour la race tout entière. Tu as un devoir, et tu l'accompliras avant de mettre fin à ta vie stupide et dénuée de sens. »
Malkin lâcha un nuage de ses propres toxines. Les yeux écarlates et furibonds du serpent blanc tournèrent au ralenti et virèrent au marron terne. Ses mâchoires béèrent paresseusement alors que le poison faisait son effet. Malkin déclara doucement
« Tu vas nous guider vers celle qui se souvient. Nous avons déjà absorbé les souvenirs d'un pourvoyeur argenté. Si besoin est, nous pouvons en prendre davantage. » Avec ce que nous obtiendrons auprès de celle qui se souvient, ce sera peut-être suffisant. »
Il ajouta malgré lui.
« Avons-nous le choix ?»
Kenneth se tenait en équilibre devant son miroir et tournait le visage de tous côtés pour examiner son reflet. Il avait lustré ses cheveux et sa barbe taillée d'une touche d'huile de citron. Sa moustache se retroussait avec élégance mais sans affectation. Des flots de dentelle immaculée cascadaient sur sa poitrine et bouffaient aux manchettes de sa veste bleu foncé. Même le coussinet en cuir de son pilon avait été ciré et brillait. De lourds anneaux d'argent pendaient à ses lobes. Il avait l'air d'un homme qui va faire sa cour. En un sens, c'était exact. Il n'avait pas bien dormi cette nuit-là, après sa conversation avec la vive Nef. Ce bougre de charme n'avait pas arrêté de susurrer et de ricaner bêtement en le pressant d'accepter les conditions du dragon. C'était justement cette insistance qui inquiétait fort Kenneth. Oserait-il se fier à cette fichue amulette? Oserait-il l'ignorer? Il s'était tourné et retourné, et même le doux massage de sa nuque et de son dos par Etta, qui était venu le rejoindre dans son lit, n'avait pu l'aider à s'endormir. L'aube grisaillait quand il avait fini par s'assoupir. En se réveillant, il avait découvert en lui une nouvelle détermination. Il allait reconquérir la vive Nef. Cette fois-ci, au moins, il n'aurait pas à craindre son attirance envers Yémin. Il ne savait pas grand-chose des dragons, aussi s'était-il concentré sur le peu qu'il connaissait. C'était une femelle. Donc, il lisserait son plumage, lui offrirait des cadeaux et verrait ce que cela lui rapporterait. Satisfait de son apparence, il retourna à son lit et examina le trésor qui y était posé. Une ceinture d'anneaux d'argent incrustée de lapis-lazuli en guise de bracelet. Si cela la tentait, il avait encore deux bracelets d'argent qu'on pouvait remonter en boucle d'oreille. Etta ne s'apercevrait pas de leur disparition. Une lourde flasque contenant de l'huile de glycine, probablement destinée à l'origine à une parfumerie chalcédienne. Il ignorait quels autres objets encore pourraient ravir ses sens. Si ses trésors la laissaient indifférente, il envisagerait une autre tactique. Mais il la conquérerait. Il glissa ses présents dans un sac de velours qu'il attacha à sa ceinture. Il lui était plus facile de se déplacer s'il avait les mains libres. Il ne voulait pas apparaître maladroit à ses yeux. Il rencontra Etta dans la coursive, les bras chargés de draps frais. Elle le considéra des pieds à la tête avec une franchise dont il faillit s'offenser, et cependant l'approbation qu'il eut dans son regard lui confirma qu'il ne s'était pas apprêté en vain. « Eh bien !» fit-elle d'un ton presque coquin. Un sourire effleura ses lèvres.
« Je vais parler au navire, » dit-il d'une voix bourrue. « Que personne ne nous dérange. »«
Je transmets tout de suite, » assura-t-elle, puis elle osa ajouter en souriant plus largement. « Tu as raison d'y aller ainsi, elle sera contente. »«
Qu'en sais-tu ? »
rétorqua-t-il, et il la dépassa en boitant.
« J'ai bavardé avec la vive Nef ce matin. Elle a été polie avec moi et m'a parlé ouvertement de son admiration pour toi. Fais-lui voir que tu l'admires aussi, cela chatouillera sa vanité. » Elle a beau être un dragon, elle est assez femelle pour qu'on se comprenne toutes les deux. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Elle dit qu'on doit l'appeler Foudre. Le nom lui va très bien. Elle irradie la lumière et la puissance. »
Kenneth s'arrêta. Il se retourna pour lui faire face.
« Qu'est-ce qui nous vaut cette nouvelle alliance ? »
demanda-t-il mal à l'aise. Etta inclina la tête et prit un air pensif.
Elle est différente maintenant. C'est tout ce que je peux dire.
Elle sourit tout à coup.
Je crois qu'elle m'aime bien. Elle a déclaré que nous pourrions être comme des sœurs.
Il espéra qu'il cachait bien sa surprise.
Elle a dit ça?
La putain serrait sur son cœur les draps et continuait de sourire. Elle a ajouté que tu n'aurais pas trop de nous deux pour réaliser tes ambitions.
Hein?
Il se tourna et s'éloigna en boitant. Le navire l'avait conquise. Comme ça, simplement, avec un ou deux mots gentils. Cela lui parut invraisemblable. Etta n'était pas femme à se laisser facilement influencer. Que lui avait proposé le dragon? Le pouvoir? La fortune? Mais plus important encore, pourquoi? Pourquoi le dragon cherchait-il à s'allier avec la putain?
Il se surprit à allonger le pas et ralentit délibérément. Il ne fallait pas se presser. Du calme, fais-lui la cour posément. Conquiers-la, et alors son amitié avec Etta ne constituera plus une menace. Dès qu'il fut sorti sur le pont, il sentit une différence. Dans la mâture, les hommes changeaient les voiles en se lançant des plaisanteries. Yola cria un ordre, et les hommes bondirent pour l'exécuter. Un matelot glissa et se rattrapa d'un bras musclé. Il éclata de rire et se hissa pour remonter. La figure de proue poussa un cri ravi en voyant son adresse. Kenneth comprit sur le champ que le matelot n'avait pas glissé. Il cherchait à éblouir le navire. L'équipage entier déployait ses compétences pour obtenir l'approbation de la vive nef. Ils rivalisaient comme des gamins pour attirer son attention.
« Qu'est-ce que tu as fait pour les mettre de cette humeur ?»
dit-il en guise de salut. Elle gloussa de bon cœur et lui jeta un regard par-dessus son épaule nue.
« Il en faut si peu pour les séduire. Un sourire, un mot, les défier de mettre une voile plus rapidement. Un peu d'attention, très peu d'attention, et c'est à qui se fera remarquer. »
« Je suis étonné que tu daignes même les remarquer.
Hier soir, tu paraissais n'avoir que faire des humains. » Elle laissa glisser ses paroles.
« Je leur ai promis une proie avant-demain au coucher du soleil, mais à la condition qu'ils puissent rivaliser avec mes sens. Il y a un navire marchand pas très loin devant. Il transporte des épices venant des îles Mangardor. Nous n'allons pas tarder à le rattraper s'il tente bien ma toile. » Ainsi elle avait accepté son nouveau corps à ce qu'il semblait.
Il préféra s'abstenir de tout commentaire.
« Tu peux voir le navire au-delà de l'horizon ?»«
Je n'ai pas besoin de le voir. Le vent me porte son odeur. Clous de girofle et bois de santal, poivre asien et bâton de kimoré, les parfums même des îles Mangardor. Seul un navire avec une cargaison aussi riche peut exhaler ces odeurs si loin au nord. On devrait bientôt en venir en vue. »
« Tu as vraiment un odorat aussi subtil ?»
Un sourire carnassier retroussa ses lèvres.
« La proie n'est pas si loin. Le navire se ferait avec prudence une route à travers ces îles. Si ta vue était aussi perçante que la mienne, tu le repérerais. »
Le sourire disparut.
« Comme navire, je connais ces eaux, mais pas comme dragon. » Tout a beaucoup changé depuis que je me suis envolé pour la dernière fois. Je reconnais et pourtant je ne reconnais pas. »
Elle fronça les sourcils.
« Tu connais les îles Mangardor ?»
Kenneth haussa les épaules.
« Je connais les écueils Mangardor. Ils sont dangereux par temps de brume et à certaines marées ils sont juste assez découverts pour déchirer la coque d'un navire qui se risque à approcher. »
Un long silence troublé suivit ses paroles.
« Donc, reprit-elle enfin à mi-voix, soit les océans ont monté, soit les terres que j'ai fréquentées se sont enfoncées. Je me demande ce qu'il reste de mon pays. »
Elle se tut un instant.
« Pourtant, l'île des autres, comme tu l'appelles, n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. » Et une partie du monde que j'ai connue est restée en l'état. C'est une énigme pour moi. Je ne pourrai la résoudre qu'en retournant chez moi.
« Chez toi ?»
Il affecta un ton détaché.
« Et où est-ce ? »
« Chez moi, c'est une éventualité. Tu n'as pas de raison de te tracasser à ce sujet pour le moment. »
Elle souriait, mais le ton était plus froid.
« Ce ne serait pas par hasard ce que tu voudrais quand tu voudras quelque chose ?»
insista-t-il.
« Cela se pourrait. Je te le ferai savoir. »
Elle marqua une pause.
« Après tout, je ne t'ai pas encore entendu dire que tu acceptais mes conditions. »
« Prudence, prudence. »
« Je ne suis pas précipité dans mes décisions. J'aimerais en savoir plus sur ces conditions. »
Elle eut un rire sonore.
« C'est stupide, cette discussion. Tu es d'accord. Parce que tu as encore moins le choix que moi dans la vie que nous devons partager. » Qu'avons-nous d'autre à notre disposition, si ce n'est l'un et l'autre? Tu m'apportes des cadeaux, n'est-ce pas? C'est plus juste que tu ne le crois pas. Mais je n'attendrai même pas que tu me les offres pour te révéler que je suis un trésor plus magnifique que ce que tu avais jamais convoité. Rêve plus large, Kenith, plus grand que tes rêves les plus fous. Rêve d'un navire qui peut appeler les serpents de l'abîme à la rescousse. Ils sont à mes ordres. Que voudrais-tu qu'ils fassent? Qu'ils arrêtent un navire et qu'ils le pillent? Qu'ils escortent un vaisseau jusqu'à sa destination? Qu'ils te guident dans la brume? Qu'ils protègent ton port d'attache de toute menace? Rêve grand, rêve plus grand encore, Kenith, et accepte les conditions que je te propose.
Il se racla la gorge. Sa bouche était devenue toute sèche.
Tu pousses trop loin, dit-il froidement. Que peux-tu vouloir, que puis-je te donner qui vaille ce que tu m'offres?
Elle gloussa. Je te le dirai, si tu ne le comprends pas par toi-même. Tu es le souffle de mon corps, Kenith. Je dépends de toi et de ton équipage pour bouger. Si je dois rester prisonnière à l'intérieur de cette coque, il me faut un vaillant capitaine qui me donne des ailes, même si elles ne sont que de toile. Il me faut un capitaine qui comprenne la joie de la chasse et la quête du pouvoir. J'ai besoin de toi, Kenith. Accepte.
Elle baissa la voix, l'adoucit.
Accepte.
Il prit une inspiration.
J'accepte.
Elle rejeta la tête en arrière et éclata d'un rire qui résonna comme un tintement de cloche. Il sembla que le vent lui-même soufflait plus fort, agité par le son. Kenith s'appuya à la lisse. La jubilation montait en lui. Il avait peine à croire que ses rêves étaient enfin à sa portée. Il chercha quelque chose à dire.
Yémin sera très déçu, pauvre garçon.
La vive nef hocha la tête avec un petit soupir.
Il mérite d'être un peu heureux. Allons-nous le renvoyer dans son monastère?
Je crois que c'est le parti le plus sage,
renchérit Kenith en dissimulant sa surprise.
Pourtant, cela me ferait de la peine qu'il s'en aille. Cela m'a brisé le cœur de le voir ainsi défiguré. C'était un si beau jeune homme.
Il sera plus heureux dans son monastère, j'en suis sûr. Un moine a guère besoin d'avoir la police. Quand même, et si nous lui offrions la guérison en cadeau de départ? Un souvenir qu'il emportera avec lui, toujours, qui lui rappellera comment on l'a façonné.
Foudre sourit en découvrant ses dents blanches. Kenith était incrédule.
Tu en es capable aussi?
Le navire eut un sourire de conspirateur.
Tu en es capable aussi.
Bien plus efficace, tu ne crois pas?
Va dans ta cabine maintenant. Fais une imposition des mains et exprime tes meilleurs vœux. Je te guiderai pour le reste.
Une étrange léthargie s'était emparée de Yémin. Après avoir tenté de méditer, il s'était enfoncé dans un abîme abstrait. Il y flottait en suspension, se demandant confusément ce qui lui arrivait. Avait-il enfin maîtrisé un état de conscience plus profond?
Il se rendit vaguement compte qu'on ouvrait la porte. Il sentit les mains de Kenith sur sa poitrine. Il s'efforça en vain d'ouvrir les yeux. Impossible de se réveiller. Il était retenu comme par une main qui l'étouffait. Il entendait des voix, Kenith qui parlait, Eta qui répondait. Gankis dit quelque chose tout bas. Yémin luttait pour se réveiller, mais plus il se débattait, plus le monde reculait. À bout de force, il plana. Des vrilles de conscience l'atteignirent. La chaleur irradiait de la main étendue de Kenith. Elle infusait sa peau puis s'infiltrait profondément dans son corps.
Kenith parlait doucement, l'encourageait. La force vitale de Yémin s'enflamma soudain. Pour lui, c'était comme si une chandelle s'allumait subitement avec la chaleur et l'éclat d'un feu de joie. Il se mit à haleter, comme s'il gravissait en courant une côte. Son cœur peinait à rattraper le rythme affolé de son souffle. « Arrêtez !» voulait-il supplier. « Je vous en prie, arrêtez !»
Mais aucun mot ne s'échappa de ses lèvres. Il hurla sa prière dans sa propre obscurité. Il entendait. Il entendait les hoquets de surprise et les cris d'émerveillement de ceux qui l'observaient. Il reconnut les voix des matelots.
« Regarde, on le voit changer !»«
Même ses cheveux qui poussent !»«
C'est un miracle! Le capitaine le guérit !»
Les réserves de son corps brûlaient inconsidérément. Il sentit que des années de sa vie se consumaient dans cet acte, mais il était incapable de s'y opposer. La peau régénérée le démangeait atrocement, mais il ne pouvait bouger un muscle. Il n'avait plus la maîtrise de son propre corps. Il réussit à geindre du fond de sa gorge. Peine perdue. La guérison le dévorait de fond en comble, le tuait. Le monde s'éloignait. Il flottait tout petit dans le noir. Au bout d'un moment, il s'aperçut que Kenith avait retiré ses mains. Les violents battements de son cœur s'apaisèrent. Quelqu'un parla, très loin. La voix de Kenith vibrait d'orgueil et d'épuisement.
« Voilà. Laissons-le se reposer maintenant. Dans les jours qui viennent, il ne va se réveiller probablement que pour manger, et puis il se rendormira profondément. Que personne ne s'en inquiète. C'est une étape nécessaire de la guérison. »
Il entendit le souffle haché du pirate.
« Je dois me reposer, moi aussi. Il m'en a coûté, mais il ne méritait pas moins. »
Kenith se réveilla en début de soirée. Il resta un moment immobile à savourer sa jubilation. Le sommeil l'avait complètement revigoré. Il avait guéri Yémin de ses propres mains. Jamais il ne s'était senti aussi puissant que lorsque ses mains étaient posées sur Yémin et que sa volonté avait régénéré la peau du garçon. Les hommes qui avaient assisté à la séance le considéraient avec une crainte respectueuse. La côte tout entière des rivages maudits s'offrait à lui. La belle Éta rayonnait d'amour et d'admiration pour lui. Il ouvrit les yeux et regarda le charme attaché à son poignet, jusqu'à cette minuscule figure qui lui souriait voracement. Durant un instant de complète harmonie, tout fut parfait dans son univers.
« Je suis heureux, » dit-il à voix haute.
Il eut un grand sourire en s'entendant prononcer ces mots inconnus. Le vent se levait. Il l'écouta siffler dans la toile du navire et s'étonna. Il n'avait perçu aucun signe annonciateur de tempête et le navire ne tanguait pas. Le dragon avait-il aussi du pouvoir sur les tempêtes? Il se redressa précipitamment, saisit sa béquille et sortit sur le pont. Le vent qui jouait dans ses cheveux était vif et régulier. Pas de nuages menaçants, la lame était courte et rythmée. Pourtant, alors qu'il regardait autour de lui, le bruit d'un vent qui se levait lui parvint aux oreilles. Il se rapprocha en hâte de sa source. À son grand étonnement, l'équipage au complet était rassemblé autour du gaillard d'avant. Les hommes se séparèrent pour le laisser passer dans un silence plein de respect. Il traversa le groupe en boitant et se hissa sur l'échelle. Au moment où il reprenait pied, le bruit du vent s'éleva à nouveau. Cette fois, il en comprit la cause. Foudre chantait. Il ne distinguait pas son visage. Elle avait la tête rejetée en arrière et ses longs cheveux se répandaient sur ses épaules. L'argent et le lapis du présent de Kenith brillaient sur les boucles noires et mousseuses. Elle chantait avec la voix d'un vent qui se lève, puis avec le fracas des vagues fouettées par le vent. Sa tessiture allait du jaillissement grave jusqu'au sifflement aigu que nulle gorge, nulle bouche humaine n'aurait pu produire. C'était la voix du vent qui chantait, et ce vent bouleversa Kenith comme jamais musique humaine ne l'avait ému.
Elle parlait au fin fond de lui-même, la langue de la mer elle-même, et il reconnut sa langue maternelle. Alors une autre voix se joignit à celle de Foudre, égrenant des notes pures qui enrobaient et perçaient le chant de mer. Toutes les têtes se tournèrent. Les voix humaines s'étaient tues. Un profond silence régnait sur le navire. L'éclair d'effroi qui avait frappé Kenith fit place à l'émerveillement. Il était aussi magnifique que son navire. Il le voyait bien maintenant. Émergeant des profondeurs, le serpent d'or vert se dressa en oscillant, les mâchoires largement étirées par son chant.
Vous venez d'écouter Les Aventuriers de la Mer. Tome 7 Le Seigneur des Trois Règnes de Robin Hobb. Traduit de l'anglais par Véronique David Maresco. Lu par Vincent Deboire.